Vous écoutez France Culture.
Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, on s'intéresse à des agriculteurs qui ont réussi à vivre autrement. C'est donc possible.
Ça, c'est des nouveau-nés, ça.
C'est des petits chevreaux qui va. Il y en a qui va falloir tuer d'ici quelques 15 jours, 3 semaines, hélas.
Vous les gardez pas?
On garde les femelles, mais les mâles, on ne peut pas... Dans une ferme, les animaux, c'est à 99% des femelles. On l'oublie.
Oui, c'est vrai.
Un bouc pour le troupeau de chèvres, ça suffit. Un bélier pour le troupeau de moutons, ça suffit.
Et donc les mâles, on les tue?
Voilà. Ils sont vendus, mangés en chevreau de lait.
Et vous, vous faites des fromages avec le lait de la mer?
Voilà. C'est la condition sine qua non pour pouvoir prendre le lait des mères, c'est que les chevreaux soient partis. Parce que sinon, ils têtent tout.
Mais du coup, vous les tuez tout de suite de naissance? Non, ils sont un peu plus grands, ceux-là.
On les tue à un mois et demi, deux mois. Quand ils font à peu près une douzaine de kilos vifs.
Donc, ils ont quand même passé un mois et demi avec leur mère.
Voilà.
Et vous n'aimez pas les tuer?
C'est jamais agréable de les tuer. Je fais ma petite prière. J'essaie de faire en sorte que ça soit rapide et que la bête ne souffre pas. Mais donc je m'en fais un devoir. Ce qui m'est plus pénible, c'est de devoir choisir et tuer. Donc en général, je préfère qu'on me dise, voilà, c'est celui-là. Et voilà. Quand il faut choisir, ça, c'est vraiment pénible. Donc, c'est le travail de Delphine de choisir.
En même temps, vous pourriez choisir de ne pas en tuer quelques-uns, certains.
Le problème, c'est que si personne ne me les achèterait, m'achèterait du chevreau si je ne les tuais pas. C'est ça le problème aujourd'hui. On n'apprend pas aux jeunes à vivre avec la mort et à relier le côté... Mais il faut tuer. La viande qu'on mange sont des bêtes qu'on a tuées, quoi. Hein, je ne sais pas comment dire ça. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les tue. Quelque part, moi, je dis que... Moi, je préfère encore les tuer moi-même que de les faire tuer à un autre. Parce que je me dis... Tu as voulu que ces bêtes-là, elles vivent. Assume. Plutôt que de passer par un abattoir ou... Voilà. Quand j'abandonne une bête à l'abattoir, j'ai l'impression de ne pas être complètement logique avec moi-même, quoi.
Donc là, vous n'allez pas à l'abattoir?
Non, les chevreaux, ils sont tués ici. Ce sont des gros lapins. Hein. Alors l'abattoir, c'est pareil. Le problème de l'abattoir, c'est que on fait casser la figure à tous les petits abattoirs. Donc il faut toujours aller de plus en plus loin. Ici, on a encore la chance d'avoir un petit abattoir, mais il est quand même à 25 km. 50 km aller-retour, je ne vais pas faire 50 km. Pour un petit chevreau, pour un ou deux petits chevreaux, parce que c'est à ce rythme-là qu'on les tue. On n'en tue pas 10 ou 15 ou 20 ou 100 d'un coup.
Ah oui?
Ben non, voilà, non. Non, on les tue suivant la demande. Donc j'ai un client qui me demande un chevreau aujourd'hui. On se met d'accord, il vient samedi. Je le tue l'avant-veille, je le découpe la veille, et voilà.
Et eux, ils sont en train d'arracher mon pantalon.
Hey.
Qui est joli.
Ils disent plus rien.
Ouais.
Ils sont muets.
Intimidés.
Hein?
Allez, on se promène.
Ah
voilà.
Ils bêlent juste quand on s'en va.
sont belles les poules.
Celles-là, c'est des poules de luxe parce que il y a les autres là-bas dans un grand parc. Il y en a qui ont droit à la liberté, puis d'autres à moins.
Et c'est décidé comment ça ?
Oh, c'est comme ça. Hein. C'est au hasard, disons que quand on en a trop dans la cour, on les emmène au poulailler. Mais je trouve que une cour de ferme sans poules, c'est pas une cour de ferme.
Ouais, c'est vrai.
Il y a pas longtemps, il y a des gens qui sont venus et il y avait un couple qui nous connaissait et pas l'autre. Et ils discutaient de nous en disant mais tu sais bien, c'est la ferme où il y a des poules dans la cour.
Ah,
un biberon.
Tiens. C'est très beau qu'il y ait des coqs au milieu des...
C'est vrai, je ne sais pas pourquoi ils sont toujours là, ceux-là.
Au milieu des moutons.
Souvent, ils attendent parce qu'il y a des poules qui pondent dans le foin.
Ah.
Donc, ils attendent
dans
que
le
les
foin
poules...
des brebis.
Voilà, donc ils attendent que les poules aient fini de pondre pour leur sauter dessus. On a pas mal de charmois depuis quelques années.
Pourquoi ?
Parce que ça fait des petits agneaux assez vifs et assez ronds. Ah. Et en fait, c'est vrai que... Avant, on avait tendance à avoir des grandes races de moutons. Et depuis quelques années, les gens, en fait, ils préfèrent des races plus petites et des plus petits gigots.
Ah oui.
Et voilà, on a moins souvent de gens qui nous disent « je veux des gros gigots ». Et même, il y a des gens qui nous disent « est-ce que vous pouvez nous les couper ?» quoi.
Philippe et Delphine Perrault, vous êtes installés en agriculture depuis combien de temps maintenant ?
Depuis 1977.
Et la raison pour laquelle on est venu vous voir aujourd'hui, c'est que vous avez une première particularité, je suis sûre qu'on va en trouver d'autres, mais vous n'avez jamais reçu ou demandé de subvention pour votre travail.
Voilà, mais en fait, quand je me suis installé, j'étais pas fils de paysan. Et j'ai dû chercher une ferme pendant 3 ans, ça a été très long, et puis convaincre tout le monde que c'était vraiment ça que je voulais faire. C'était mon rêve d'enfant d'être fermier. Et on m'avait dit que quand on s'installait comme paysan, on avait droit à des aides et à des prêts intéressants. Donc une fois que j'ai eu trouvé cette ferme, j'ai eu trouvé une famille qui m'avait fait confiance pour me louer son bien, j'ai demandé à bénéficier des aides à l'installation. Et puis on m'a dit que j'avais droit à rien parce que je n'avais à l'époque que 10 hectares, je n'avais pas la surface minimum d'installation. Mon projet n'était pas viable. Il était viable pour les propriétaires, mais pas pour les instances dirigeantes de l'agriculture.
Ça aurait pu vous décourager ?
Ça aurait pu me décourager, ça m'a fâché. Ça m'a énormément fâché. J'ai dit, puisque toute ma vie, toute mon enfance, on m'avait découragé de faire ce métier, on m'avait dit, c'est pas possible, il faut être né là-dedans, il faut de l'argent, ceci, cela. Donc, ça m'a plutôt, voilà, c'est devenu un défi. J'ai dit, c'est très bien, je me débrouillerai tout seul.
Mais c'est vrai qu'on entend aujourd'hui encore que c'est pas possible. C'est pas possible sans subvention, c'est pas possible sans aide, c'est pas possible, pas seulement à l'installation, mais même pour continuer.
Oui, c'est devenu assez dingue parce qu'à l'époque où je me suis installé, c'était une option de toucher les primes, alors que c'est devenu incontournable. Et à tel point qu'aujourd'hui, les jeunes qui s'installent, on est en relation avec un centre de gens où des gens décident de changer d'orientation, leur projet doit vraiment être conçu en fonction des aides possibles. C'est incontournable.
C'était une option, dites-vous, dans les années 70, Philippe Perrault ?
Je pense que c'était une option. Disons que c'était, on nous disait, si vous voulez bénéficier des aides à l'installation, vous devez remplir telle et telle condition. Sous-entendu, si vous ne voulez pas en bénéficier, vous vous installez autrement.
Oui, ça c'est Philippine, avec son petit bout de langue qui sort tout le temps. Hein ?
Ah, c'est une affectueuse.
Ah ben elle, ouais, je sais pas pourquoi.
Et celui-là de veau, il s'est échappé ? Il n'est pas dedans, dans l'enclos avec les autres ?
Ils sortent là, sur le côté. Puis le matin, ils vont se coucher au soleil, là-bas, dans le foin.
Ils se promènent en liberté ?
Ben ouais. Il y en a qui disent, oh, tu te rends compte, ils vont se sauver, puis tout. Je dis, moi, quand je les vois, j'arrive le matin, ils sont couchés au soleil, là, ils sont bien, quoi.
Bah, oui.
Ils sont mieux que là, d'être couchés dans le fumier.
Et les mères, elles n'ont pas envie de sortir ?
Là, ça va pas tarder. Là. Elles commencent à sentir l'herbe qui pousse. Là, elles vont moins manger le foin que je vais leur mettre le matin parce qu'elles sentent que...
Dehors, ça a l'air bon.
Bah ouais.
Elles ont encore leur pelage d'hiver ?
Ouais, ouais.
Pascal Fichot, vous êtes installé à peu près dans les mêmes années ou plus tard ? Vous, vous étiez fils de paysan, fils, petit-fils, arrière-petit-fils ?
Oui, moi j'étais... Mon grand-père était paysan, mon arrière-grand-père, mon père. Et donc j'ai repris la ferme de mon père en 1990.
Ah oui, c'est plus tard.
Ouais.
Donc c'était déjà devenu incontournable.
Ouais, ouais, parce que moi quand je me suis installé... Alors mon père voulait pas que je sois paysan. Je sais pas pourquoi, mais il voulait pas que je sois paysan. Donc je suis allé bosser ailleurs. Et quand il est arrivé en retraite, donc j'ai pris la décision de reprendre la ferme. Sauf que j'avais pas un rond, quoi. Alors, du coup, j'ai demandé les aides, quoi. Mais bon, bah, j'ai mis le nez dedans, et puis maintenant, bah, j'arrive pas à m'en sortir, quoi. Enfin, à m'en sortir. À sortir de ce système d'aide, quoi.
C'est-à-dire que les premières aides vous ont engagé pratiquement à perpétuité ?
Bah, oui, oui. Moi, j'ai démarré dans le système conventionnel. Je suis pas parti en bio tout de suite. J'ai commencé la conversion en 2002. Donc moi j'ai écouté un peu ce que j'avais appris à l'école d'agriculture et puis quand je me suis installé j'ai fait un peu confiance aux techniciens de la chambre d'agriculture qui me disaient bah, faut faire ci, faut faire ça, faut demander ci, faut demander ça et puis tout, bon. Donc je les ai écoutés puis après au fur et à mesure de l'évolution je me suis rendu compte que quand on les écoutait c'était pas toujours bon quoi. Ils vous conseillent mais après derrière il faut acheter toute une panoplie de trucs et puis alors donc après il faut faire des emprunts, après on vous dit ben oui mais il y a des primes, donc on demande les primes et puis une fois qu'on a le nez dedans ben, c'est difficile d'en sortir quoi.
Mais est-ce que ça n'est pas difficile aussi, Philippe Perrault, de démarrer sans les conseils, sans l'appui, sans l'école agricole, sans tout ça? Comment est-ce que vous vous êtes lancé vous complètement dans le vide ou alors vous aviez appris quelque chose?
J'ai fait quelques années d'une école d'agriculture parce que donc très jeune j'avais envie de faire ce métier. Je peux dire aujourd'hui que ce que j'ai appris à l'école d'agriculture, ça m'a servi à fonctionner avec les agriculteurs, avec mes collègues, mes voisins, mais pas tellement d'un point de vue technique. Par contre, j'ai eu la chance de rencontrer un vieux berger qui m'a vraiment transmis son savoir-faire et qui est même venu habiter quelques mois ici avec moi. Et ça, c'était vraiment précieux.
Comment est-ce que vous avez démarré ? Qu'est-ce que vous vouliez faire au départ ?
Au départ, je voulais vivre dans une ferme. Donc, je n'avais pas de projet précis. J'étais simplement déterminé à m'en sortir coûte que coûte, à payer ce que j'aurais à payer, à être autonome, à vivre d'une façon satisfaisante. Aujourd'hui, il faut absolument qu'il y ait un projet précis, chiffré. Moi, je n'avais rien de tout ça. Et il se trouve que... J'ai gagné la confiance de mes propriétaires simplement en expliquant ça et en disant que j'étais vraiment déterminé. Et voilà, ça a suffi pour qu'ils me donnent leur confiance. Ce n'est pas le cas des instances dirigeantes de l'agriculture. On ne donne pas la confiance comme ça.
Delphine Perrault, vous voulez ajouter quelque chose ?
Je voulais, oui, juste préciser que tu es arrivée avec quelques chèvres, avec 5-6 chèvres qui étaient déjà là quand tu étais en région parisienne chez tes parents. Voilà. Donc tu es arrivé avec un mini troupeau qui tenait en gros dans une camionnette. Et puis après, donc, tu as commencé comme ça. Et puis moi, donc, quand je suis arrivée, en fait, j'ai trouvé ce gars qui était... Ça m'a un petit peu impressionnée, mais séduit en même temps, qui était déjà là avec une dizaine de chèvres et qui vivait effectivement, qui était là en train de vivre dans la ferme. Et du coup, c'est vrai qu'on ne s'est jamais dit qu'on était des... exploitants agricoles, on s'est toujours dit qu'on était des fermiers qui vivons dans une ferme. Voilà.
Qu'est-ce qu'on fait avec 5 chèvres ?
Mais avec 5 chèvres, on ne fait pas grand-chose. Mais disons que j'avais quelques obligations de payer le loyer, de payer mes charges et tout ça. Donc, il fallait coûte que je trouve l'argent pour faire face à mes petites dépenses. Et donc, je prenais ce qui se trouvait. Donc, je donnais des coups de main à droite à gauche... On me payait soit en argent, soit en service, soit en denrées pour nourrir mes animaux, en foin, en grains, etc. Je voudrais préciser que ça m'a vraiment beaucoup plu de démarrer comme ça. Et c'est ce que je conseille aujourd'hui à tous les jeunes qui viennent me voir parce que c'est vraiment une façon de fonctionner qui fait travailler la matière grise. Quand on a besoin de quelque chose et qu'on a l'argent pour acheter, on achète. Quand on n'a pas l'argent pour acheter, on se creuse la tête, on réfléchit et là, ça devient intéressant. Et en plus, j'ai deux passions dans la vie, c'est vraiment la nature, mais aussi l'écriture. Et j'ai un côté 19e siècle, pour retrouver la vraie valeur des choses, je crois qu'il faut passer par le manque. Donc ça me convenait tout à fait.
Le manque, c'était quoi là, le manque pour l'écriture?
Le manque d'argent, le manque de choses. Quand on n'a pas de pain, on se creuse la tête. Si on n'a pas d'argent pour acheter le pain, on le fabrique.
Oui, c'était ça au départ. C'est vrai qu'après, petit à petit, c'est devenu... faut pas s'imaginer qu'on était tout le temps dans le manque. Petit à petit, le troupeau a grossi quand même. On a eu plus de chèvres, de vaches. Petit à petit, on est passé en fait de 10 à maintenant 50 hectares.
Ah, parce que là, vous parlez de terre maintenant, on n'est plus à parler.
Maintenant, on parle de terre et donc aussi de cheptel, puisque le cheptel s'est agrandi aussi au fur et à mesure du temps.
Disons qu'au fur et à mesure des années, on a choisi de fonctionner sur notre ferme. C'est-à-dire que, au début, on travaillait à droite à gauche pour faire face à nos charges. Mais l'objectif, c'était de vivre sur notre ferme, de notre élevage, de notre culture, de notre travail.
Mais j'aimerais que vous me racontiez, peut-être concrètement, en quoi ça consistait. Parce que là, on a toujours cette image de vous deux avec un tout petit troupeau de chèvres, mais... Concrètement, comment est-ce que ça a évolué? De quoi est-ce que vous viviez? Vous faisiez des fromages de chèvre? Vous vendiez des gigots de cabri? Je ne sais pas, moi.
Voilà, exactement. On a...
Donc, je savais.
Voilà, on s'est mis à faire du fromage.
Apprendre à faire du fromage.
J'avais appris avec le vieux berger qui m'a formé pendant quelques années, même avant que je trouve la ferme.
Et comment est-ce qu'on vend dans ces cas-là?
Faut le faire savoir, faut faire un petit peu de publicité autour de soi, et puis surtout à la ferme.
Au départ, on vendait essentiellement à la ferme, on ne faisait pas de marché. Quand les enfants étaient petits, on était, toute la vente se passait à la ferme, et petit à petit, on s'est intéressé aux marchés locaux, et maintenant on a deux marchés.
Où est-ce devant?
Bon, moi, le foin, je le faisais rouler à la main, et maintenant, ils prennent une machine. Hein.
Mais bon. L'avantage de le faire à la main, au moins, il n'y a pas de bruit.
Il n'y a pas de bruit, à part le bruit des cornadilles, là, mais... Et puis, ça use pas de fioul, et puis ça brise moins le foin.
Oui, il est très beau, ce foin.
Parce que ce qu'il faut, c'est que... C'est qu'il y ait des brins longs, quoi, pour la digestion. Ouais. Parce que plus il y a de brins longs... Plus elles mâchent pour manger les brins, et plus elles mâchent, plus elles font de la salive. Et dans la salive, il y a du bicarbonate, et le bicarbonate, ça aide à la digestion. Donc une vache, quand elle mastique normalement, elle produit 120 litres de salive par jour. Ça fait 5 kg de bicarbonate.
Wow.
À peu près, hein, c'est les chiffres. Alors quand on met... Le foin, là, dans une machine, comme ils font maintenant, là, où ils mettent tout dans la machine, ça coupe tout en petits boulons comme ça, de 7-8 cm. Donc les vaches, elles en mangent... Elles mangent ça, mais assez rapidement. Donc elles produisent moins de salive. Donc elles digèrent moins bien.
Et là, on a des brins qui font au minimum 30 cm, non? 30-40?
Au moins, oui. C'est entier, quoi. Parce qu'en plus, moi, je le fane pas beaucoup, parce que... Plus on le fane l'été, plus ça le brise.
Ouais.
Donc moi, je le laisse sécher, je le retourne le moins possible, quoi. Alors c'est plus long, quoi. C'est un peu embêtant, ça va pas vite, quoi. Mais ça fait du foin qui est bon. Il sent bon.
Il est très beau, oui.
Donc dans les machines, pour que les vaches, elles puissent, comme elles digèrent moins bien, parce que c'est des petits brins, ils achètent du bicarbonate, puis qu'ils mettent dans
la
machine. Ouais. C'est marrant.
Ouais. Ah, c'est lourd quand même, hein, cette botte. Et vous, Pascal Fichot, vos débuts dans cette ferme où vous êtes arrivé contre la vie familiale?
Bon, ça a été pas trop mal. Parce que je suis parti avec les conseils des techniciens donc sur une production de broutard, un truc conventionnel qu'on vend en Italie et tout. Bon, dans ma tête, moi, ça ne me plaisait pas trop, quoi, parce que ce qui ne me plaisait pas, c'est l'arrivée du technicien dans la cour qui vous dit ce qu'il faut que vous fassiez, quoi. Il dit, ben non, il faut donner ça pour qu'il prenne tant de kilos par jour et puis tout. Alors, moi, j'écoutais, mais je ne le faisais pas, parce qu'après, il fallait débourser l'argent, quoi.
Mais donc, ça veut dire que vous aussi, vous étiez obligé de vous creuser la tête, comme disait Philippe Perrault tout à l'heure, et de trouver vos propres solutions, puisque vous n'étiez pas d'accord avec ce qui vous était proposé.
Non, mais Philippe, il a tout à fait raison. Il faut se creuser la tête pour pouvoir trouver des solutions. Et puis, c'est souvent quand on est au fond du trou que la solution, elle arrive, quoi. Enfin, surtout quand je suis passé en bio, suite à ce que... aux crises de la vache folle et tout, là je me dis ça va plus, quoi. Et là j'ai commencé à faire un peu d'engraissement, et puis ben, une génisse par an, après deux, après trois, et puis après je suis passé à la vente directe aussi, mais je suis toujours lié avec les primes, quoi.
Mais voilà, c'est ça, cet engrenage dont vous parliez tout à l'heure.
J'arrive pas aussi, je vais y arriver là dans peut-être 2-3 ans, mais ça va être dur, quoi. Je vais arriver à la retraite que je vais lâcher les primes, quoi. Mais je me dis, quand j'écoute Philippe, à l'époque, j'y pensais pas, mais si j'avais su, moi, j'ai démarré, mon père, il avait à peu près 12 hectares en propriété. Si j'avais démarré direct en bio sur 12 hectares en propriété, je m'en serais mieux sorti que sur... moi, j'ai commencé avec donc 12 hectares de propriété de mon père, plus après 65 hectares que je louais dans la ferme où je suis. Et maintenant, je suis à 116 hectares. Bon, ben là, c'est trop, quoi. Mais si j'avais démarré direct avec les 12 hectares de mon père en propriété, sans fermage, sans rien, je pense que je m'en serais sorti mieux que comme ça, quoi. Surtout avec moins de soucis de comment on rembourse les emprunts.
Pourtant, on dit toujours qu'il faut s'agrandir pour réussir à maintenir à peu près un niveau de vie. On dit toujours, et vous avez commencé comme ça d'ailleurs, Philippe Perrault, qu'une exploitation trop petite, c'est pas possible. On n'est même pas autorisé à démarrer, en quelque sorte. Comme s'il fallait aller toujours vers plus grand. Et vous-même, d'ailleurs, vous avez agrandi. Vous avez agrandi les terres, vous avez agrandi le cheptel.
On a agrandi presque malgré nous, parce qu'en fait, on a des propriétaires, c'est une famille de nobles qui sont gros propriétaires terriens autour de nous. Et au fil des années, on a développé des relations vraiment très agréables et amicales. Et il est arrivé qu'ils nous supplient de prendre leurs terres qui se libéraient autour de nous, parce qu'on s'entendait bien, que ça se passait bien, qu'il n'y avait pas de problème. Je pense que vraiment, ce qui compte, c'est la détermination de celui qui veut faire quelque chose. Mais pour revenir à ce que disait Pascal, je dis aujourd'hui qu'on a eu la chance de ne pas avoir droit aux primes. C'est une chance. Parce que si j'avais eu droit aux primes, si j'avais eu droit à ces aides, je serais exactement dans la même situation que lui. C'est clair.
Pris au piège.
Voilà, exactement. Pris au piège et plus maître de son affaire. Et quand j'ai choisi de cette vie... C'était aussi la liberté de faire quelque chose qui nous plaise, quelque chose qui nous épanouisse.
Mais cette liberté, justement, est-ce qu'elle n'est pas contrainte, réprimée par tout un arsenal administratif, juridique, qui oblige à toutes sortes de choses ?
Ah ben aujourd'hui, c'est hallucinant, c'est complètement ça, c'est devenu complètement dingue. Moi, je peux peut-être quand même vous préciser que dès mon installation, j'ai dû fonctionner hors la loi. Parce que quand on veut faire du fromage, il faut avoir des installations aux normes. Que vous soyez propre, que vous travaillez sur un coin de table, ça ne passe pas. Que vous soyez sale, que vous ne vous laviez pas les mains et que vous ayez une installation aux normes, il n'y a pas de problème. Bon, il se trouve que je n'ai pas eu droit aux aides. J'avais très peu d'argent de côté parce que, comme tout le monde me disait que je n'y arriverais pas, c'était pas la peine que j'emprunte ou que je fasse quoi que ce soit. Donc, j'ai démarré avec très, très peu d'argent. Pour tout vous dire, j'avais 3000 francs en poche. Pour faire une installation laboratoire pour faire des fromages, il m'aurait fallu 100 000 francs. Je ne les avais pas. Donc, j'ai commencé à fonctionner hors la loi. Et puis, chaque année, depuis 36 ans, on a amélioré notre installation. Chaque année, on a amélioré notre laboratoire. Aujourd'hui, on est aux normes.
Pourquoi est-ce qu'elle est aux normes aujourd'hui ? Parce que vous souhaitiez rentrer dans le rang ?
C'est aussi parce que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus confortable. Je laisse la parole à Delphine.
Oui, oui, c'est vrai que se rapprocher des normes permet aussi de se sentir aussi plus confortable dans sa façon de travailler. Mais simplement, c'est vrai qu'on a mis un peu de temps pour y arriver. Et c'est ce temps, justement, qu'on a tendance toujours à un peu à revendiquer, cette autorisation de qu'il soit possible que les choses se fassent petit à petit. Voilà, c'est ça qui est pour lequel on essaye d'être entendu, mais c'est très difficile. Mais...
Je pourrais ajouter que de tous les collègues avec lesquels j'ai pu parler de ces problèmes, quand on fonctionne hors la loi, c'est jamais satisfaisant. C'est une obligation. Aujourd'hui, c'est bien souvent, on est un petit peu hors la loi, tous autant qu'on est, mais c'est pas confortable. Ça coupe un petit peu les ailes, ça coupe un petit peu le bien-être de chacun. C'est pas agréable.
Bon, vous, Pascal Fichot, vous n'avez pas ce problème. Vous, c'est confortable pour vous. Vous êtes dans les normes, dans les clous.
Bah, je suis dans les normes, ouais, si on veut. Ce qui n'est pas confortable, c'est quand même le souci de rembourser des emprunts, d'être à la merci d'une épidémie, des maladies sur des veaux. Ben, on perd 2 ou 3 veaux, ben, ça y est, paf, il y a un trou à la fin de l'année. Et puis, c'est pas du confort. Hein.
Mais se conformer aux normes, là, on parle des normes, on ne parle plus d'argent.
C'est quand même un souci, quoi, parce que ça change tout le temps, quoi. Les normes, on est aux normes, 15 jours après ou l'année d'après, bon, on n'est plus aux normes. Quoi. Donc il faut changer encore. Ça, c'est un souci en plus de tous les autres. Quoi.
On est sans arrêt confronté à des normes industrielles qui ne s'appliquent pas à des petites structures. Il y a vraiment une volonté de casser les reins à toutes les petites structures dans tous les domaines. C'est ça qui est dramatique. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on ne peut plus rester petite structure et respecter les normes. Le comble, c'est que les grandes structures, elles ne respectent pas les normes. Simplement, elles ont une kyrielle d'avocats qui sont salariés et qui les défendent chaque fois qu'il y a un problème. Et nous, on n'a qu'à disparaître.
Je voulais rajouter... Il n'y a pas que nous, paysans, qui sont confrontés à ça. On voit avec nos petits abattoirs, là, qui sont confrontés avec des mises aux normes aussi tout le temps qui changent, qui augmentent et tout. Et ben, là, on a plein de petits abattoirs qui vont sûrement fermer parce qu'ils ne peuvent pas suivre. Quoi. Donc ça sera récupéré par des gros. Et après, nous, petits paysans, quand on voudra faire abattre une bête, ça va être un gros problème parce que dans les chaînes d'abattage des gros abattoirs, ben, cette bête-là, ça bouleverse toute l'organisation. Et après, ben, ou on paye le prix fort, ou ouais, on n'en met plus de bêtes à l'abattoir. Donc après, on se met à refaire des bêtes qu'on vend à des gros engraisseurs qui sont habilités pour vendre à ces gros abattoirs. Quoi.
Ou alors on se retrouve à basculer hors normes, justement.
Ou alors on se retrouve à basculer hors normes.
Et on retrouve là ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois une certaine marge de liberté et un certain inconfort.
Oui, c'est tout à fait inconfortable, c'est pas agréable, d'autant plus qu'on est régulièrement contrôlé.
Mais alors, au nom de quoi est-ce que vous êtes contrôlé, puisque vous ne touchez pas de primes, vous n'avez pas de subventions ?
Il y a une loi, par exemple, qui dit qu'on doit identifier nos animaux, qu'on doit tenir un registre des tables, qu'on doit faire des prises de sang sur nos animaux, etc., régulièrement. Et ça, qu'on touche des aides ou pas, c'est la loi.
J'imagine qu'il y a des lois aussi sur les processus de commercialisation, ce que vous pouvez vendre ou pas, etc.
Tout à fait. Par exemple, on a, pendant des années... On a reçu des colonies de vacances, des classes vertes, etc. sur notre ferme. Et on ne voulait pas leur faire payer de prix de pension. En échange, on leur demandait, ben vous nous faites vivre, vous nous achetez du lait, des fromages, des œufs, de la viande, etc. Et puis voilà, c'est un échange. Et puis vous nous gardez vos déchets de cuisine pour engraisser nos cochons. Mais c'est devenu complètement impossible. Les enfants des colonies doivent ne consommer que des produits issus d'une centrale d'achat qui vient de Pétaouchnok. Et c'est presque les moniteurs et monitrices, les fois où ils ont fait goûter du fromage et du lait à leurs enfants, nous ont dit qu'ils faisaient un truc incroyable, qu'ils risquaient vraiment beaucoup, quoi.
Delphine ?
Et c'est ce que ça rejoint complètement ce que disait Pascal, c'est-à-dire que quelque chose qui était tout à fait possible et qui était tout à fait normal... comme de recevoir des enfants à camper dans un pré et de leur proposer le lait et les fromages de la ferme, devient quelque chose d'impossible. Et même en danger, les animateurs qui se trouvent avec les enfants, qui eux-mêmes se trouvent dans une situation totalement inconfortable s'ils décident de transgresser le règlement et d'accepter le bol de lait qu'on leur propose pour les enfants. Donc nous, petit à petit, on a arrêté de recevoir des enfants de cette façon-là. La seule solution qu'ils nous proposaient, c'était de nous payer la visite à la ferme, plutôt que de nous acheter des produits. Donc voilà.
Il fallait que ça passe par un échange marchand.
Voilà, il fallait que ça passe par un échange marchand et que ça reste toujours dans le cadre des possibles. Mais le cadre des possibles évolue tout le temps.
Et se rétrécit apparemment.
Et se rétrécit, oui.
Donc pour nous, ce qui était intéressant quand on recevait des enfants comme ça, c'est que c'était pédagogique. C'est-à-dire qu'ils voyaient comment on fabriquait les fromages. Quand, à partir du moment où on travaillait la vache ou la chèvre, etc., ils voyaient tout. Et si on retire cette dimension pédagogique, ou alors on est dans les fermes pédagogiques, c'est-à-dire que c'est une image, ça n'a plus rien de vivant, ça n'a plus rien d'intéressant. Donc on a arrêté la mort dans l'âme, on a arrêté de ce genre d'activité. C'est bien dommage.
Bienvenue à la ferme. Vous pouvez acheter fromage de vache, à tartiner, fromage de chèvre, les œufs. Super. Mais vous avez plusieurs fromages différents.
Ben voilà, oui. Oui, on a... Ben le fermier, c'est le plus courant, là. Le campagnard, c'est celui qui est trempé dans une saumure avec du thé rouge. Le crémeux, c'est avec du lait qui est chauffé. Et puis... Et ben les autres sont des préparations avec arrive fines herbes, graines de tournesol. Les petits natures, ben c'est des petits modèles, quoi. Cendrés aussi. On fait les yaourts, fromage blanc. Voilà.
Fromage blanc. Ça fait beaucoup de travail de diversifier comme ça, la production ?
Ça fait un peu plus de travail, mais en même temps, ça permet de... Quand on n'a qu'un modèle de fromage, ça se vend moins bien que quand on a plusieurs. Voilà. Et le fait d'avoir des chèvres et des vaches... Les gens viennent pour... en fait, ils rentabilisent le déplacement, quoi. Plus on a de choses à vendre, voilà, mieux ça marche, le commerce.
Ouais. Et vous vendez quand même que des fromages ou vous vendez d'autres choses?
Non, on vend des œufs, et puis on vend chevreaux, agneaux et veaux.
Légumes, non?
Légumes, c'est exceptionnel. On fait nos légumes. Et quand on a vraiment... ça fait partie des... Comment on appelle ça? C'est pas nos produits d'appel. Voilà, quand on a une bonne récolte, trop de quelque chose, eh ben ça nous arrive d'en vendre ou d'en faire profiter les copains, d'en donner comme ça. Voilà, comme les volailles. Les volailles, c'est pareil, on n'en vend pas ou exceptionnellement.
Enfin, effectivement, c'est une crèmerie ici, quoi, vraiment.
Une crèmerie?
Bah oui, comme les crèmeries en ville.
Crèmerie à la ferme, voilà. Il y a un petit peu de ça. Voilà, les cartes postales. Delphine, elles vendent des cartes postales.
Vous vendez aussi des cartes postales?
Oui. C'est-à-dire que quand j'ai un petit peu de temps, justement, à la place de faire un dossier pack, je dessine mes chèvres ou les poules. Voilà. Mais c'est aussi le plaisir, enfin, comment je veux dire, pour équilibrer notre activité. En fait, on a besoin d'avoir autre chose qui nous occupe l'esprit que juste la fabrication de fromage ou de soins aux animaux. C'est important qu'on puisse s'évader dans l'écriture ou dans le dessin et puis que ça puisse être reconnu un tout petit peu puisqu'on peut on les vend. Ça équilibre la ferme, la vie de la ferme.
Si vous n'aviez pas cette activité-là, quand vous dites que ça équilibre, ouais. J'essaye de comprendre.
Ouais. Oui, je pense que sinon on pourrait tomber dans une certaine... tristesse ou aigreur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui, dans l'agriculture et de réglementation, de tas de choses comme ça qu'on peut trimballer et ruminer au cours d'une journée. Et le fait d'avoir un regard vers ce qui est beau, vers une certaine forme de création, du coup, vraiment, ça nous nourrit, quoi. Et donc, quand on dit qu'on vit dans notre ferme, ça prend tout son sens de cette façon-là. Voilà. On trouve plus un équilibre voilà, à notre vie. C'est aussi une façon de trouver un équilibre. Ouais. Ouais.
Mais je dois dire que je suis un peu étonnée en vous écoutant les uns les autres. Étonnée d'entendre que vous, Philippe et Delphine Perrault, vous continuez à parler de l'absence de primes comme d'une liberté, de vous entendre, vous, Pascal Fichot, rêver du jour où vous pourrez enfin sortir de cet engrenage, alors que finalement, on sent bien que la liberté, elle se restreint de manière terrible. Et j'en viens à me demander si ça ne vaudrait pas la peine de, au moins, toucher un peu d'argent en échange de tous ces efforts que vous êtes contraint de faire.
Ben, disons que, au fil des années, j'ai un petit peu réfléchi sur le problème des primes, et puis j'ai eu le malheur ou le bonheur de lire Jean Ziegler. Et c'est quand même un système terrible, c'est un système mafieux, c'est un système affreux. C'est-à-dire qu'on baisse le prix des denrées agricoles en dessous des coûts de production, et ça pour que les produits se vendent avec une concurrence complètement déloyale sur les marchés du monde entier. De ce fait-là, ce sont les économies agricoles des pays les plus pauvres qui se trouvent pénalisées. C'est-à-dire qu'il y a des paysans dans le monde qui ont toujours vécu sur leur lepin de terre et qui se retrouvent à aller crever dans des bidonvilles. C'est ça la réalité. Et c'est quand même hallucinant. C'est un système mafieux et terroriste. Et on oblige les agriculteurs. Moi, j'ai choisi de faire ce métier parce que j'ai toujours été fasciné par la dignité, le bon sens, toutes les qualités de l'homme de la terre. Ça m'a, j'ai pas vécu là-dedans, mais ça m'a toujours fasciné. Et aujourd'hui, j'éprouve beaucoup de satisfaction à avoir des amis, des copains qui sont paysans. Moi-même, j'ai fait ma carrière de paysan. Et quand l'autre jour, j'ai un copain qui a pris sa retraite et qui m'a dit, quelqu'un qui maîtrise vraiment bien la culture biologique des céréales, et qui a dit, je vais venir voir donner des petits conseils à tes fils pour qu'ils améliorent. Ça m'a fait vraiment très chaud au cœur. Et quand je vois tout ça, comment ces paysans-là sont traités par les administrations, et comment ils deviennent des complices de cet état mafieux, malgré eux. C'est quand même une tristesse époustouflante.
Et pour vous, Pascal Fichot, qu'est-ce que vous entrevoyez comme horizon de liberté dans le fait de sortir des primes? Est-ce que ce sont pour des raisons politiques comme celles que vient d'évoquer Philippe Hérault, ou bien quelles raisons?
Je ne sais pas trop.
Et pourtant, ça vous tient à cœur.
Bah oui, je voudrais bien en sortir, mais parce que ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, c'est il a raison, quoi. Nous, on nous donne des primes pour soi-disant investir, donc on investit, on achète du matériel, on achète des bâtiments, donc forcément après, le matériel, ça donne du temps de libre. Le temps de libre, les trois quarts du temps, plutôt que d'aller au musée ou je sais pas quoi, le paysan, il reprend des terres, donc il s'agrandit, il produit plus, et puis les excédents de production, ça part à l'étranger, affamer les gens qui ont des petites exploitations, quoi.
Vous rêvez pas d'aller au musée?
Ah si, enfin, pas le musée, mais bon, on essaye de prendre quand même du temps. Par rapport à ce que je vois que vivent mes voisins, je me dis, bon, au moins je réinvestis une partie de mes primes dans le temps libre.
Delphine Perrault?
Oui, moi je voulais dire qu'on gagne en temps à ne pas remplir le dossier PAC, par exemple. On a zéro moment pour faire ça, c'est-à-dire... on n'est pas non plus assujetti à la TVA. Donc la comptabilité, c'est la nôtre, quoi. C'est ce qu'on veut bien noter, nous, mais voilà. Donc finalement, au niveau paperasse, on se sent libre. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'important quand on entend nos collègues.
Pascal Fichot?
Oui, c'est vrai. Ouais.
Combien de temps vous passez à ces paperasses?
Combien de temps? Et en plus, comme ça devient tellement compliqué et que je ne suis pas très paperasse, donc je paye le comptable qui remplit avec moi le dossier PAC, parce que c'est tellement complexe que s'il n'y a pas quelqu'un qui connaît bien le sujet, on passe à côté de certains trucs et puis après, on n'a plus droit, quoi. Mais on est obligé de le payer. Moi, ça me coûte 250 € par an pour remplir un dossier PAC, quoi.
Alors j'essaye de ne pas les écorner, moi, mes vaches. Parce qu'avant, elles étaient toutes dans le vieux bâtiment attachées, l'hiver. Et puis, comme j'avais prévu de construire la stabule, là, les petits veaux qui naissaient, j'avais commencé de les écorner. Et parce qu'on m'avait dit, une stabulation avec les trucs en ferraille, là, ça s'appelle des cornadis, où elles passent leur tête. Et les techniciens, il faut écorner, sinon elles se battent, elles ne peuvent pas rentrer dedans et tout.
Donc j'avais commencé, mais quand on écorne... Alors il y en a qui font, qui coupent carrément la corne, comme ça quand elles sont adultes. Donc moi je trouvais ça assez...
barbare.
Assez barbare, et donc je me dis je vais le faire quand les petits veaux ils sont nés, en brûlant la corne, quoi. Mais c'est aussi barbare, quoi. Alors du coup j'ai arrêté, quoi. Puis maintenant, il y en a quelques-unes qui n'ont pas de corne parce que c'est les plus vieilles.
Et finalement, elles ne se battent pas et tout va bien, il n'y a pas de...
Des fois, elles se mettent des bons coups quand même. Alors, quand je vois qu'il y en a des trop méchantes, il y en a une là-bas, je vais couper le bout des cornes pour que ça soit moins pointu, quoi.
Ah oui.
Bon, ça, c'est pas douloureux. Parce qu'au bout, le sang, il s'arrête là, quoi.
Ah oui, donc le bout, c'est un peu comme couper les ongles, quoi.
Voilà, ouais, c'est pareil. Ah. Puis les cornes, c'est quand même le prolongement des sinus, quoi. C'est chez la vache, hein, c'est important, quoi.
Et puis une tête de vache sans cornes, c'est plus une tête de vache.
Bah ouais. On les reconnaît pas, et puis tu veux pas rentrer, toi. Mais elles ont pas trop faim, celles-là, parce qu'elles avaient une botte là qui était restée, et puis elles ont dû manger toute la nuit après. Ah ouais. Parce que si je les verrouille pas, bah, elles arrêtent pas de sortir, de rentrer, et puis elles virent l'autre, et là par contre elles se font mal des fois.
Ah oui.
Une fois qu'elles sont toutes rentrées.
Donc elles sont verrouillées le temps de manger et puis après.
Quand elles ont fini, je les déverrouille. Elle ne veut pas rentrer parce qu'elle a peur de celle-là.
Ah.
Avec des cornes, des fois.
Ah ouais.
C'est ça un peu l'inconvénient des cornes. Il faut qu'elles choisissent leur place parce que.
Ouais. Il y en a des agressives.
Il y en a des agressives. Il y en a une là-bas, il n'y a personne qui se met à côté, quoi. Alors, quand c'est comme ça, des fois, je leur balance un peu de foin par-dessus.
D'après tous les pronostics, vous devriez être disparu aujourd'hui. Votre exploitation ne devrait pas avoir pu survivre. Et pourtant, apparemment, ça va, Delphine Perrault.
Peut-être parce qu'on aime bien notre vie. On est... Voilà, notre vie nous plaît comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des moments difficiles, il y a des moments où... quand on sent là une pression avec des règlements, des obligations qui nous sont imposées comme aux autres, je pense à l'identification, des choses comme ça, c'est difficile, mais on est heureux en même temps à ce moment-là de pouvoir essayer d'offrir une toute petite résistance à ces choses-là et que les choses ne soient pas trop pires. Enfin, je m'exprime très mal, mais... mettre une petite pierre à l'édifice de la résistance, on va dire, d'une façon générale, dans notre monde actuel. Voilà.
Philippe Perrault.
On ne devrait plus exister, et puis en même temps, la demande de notre clientèle est sans cesse croissante. Il y a vraiment beaucoup d'avenir dans ce domaine. Donc c'est une raison pour se battre, pour que ça continue d'exister, et puis que ça puisse petit à petit foutre en l'air tout ce système complètement délirant et incontrôlable de la grande agriculture.
Et puis, on a régulièrement de plus en plus de stagiaires qui viennent à la ferme et qui souhaitent développer un projet d'installation sans les primes. Et ça n'existait pas il y a 10 ans.
Voilà. Mais vous avez l'impression que c'est plus difficile ou plus facile aujourd'hui de travailler de cette façon-là ?
C'est pas plus difficile, mais c'est plus... Hein, enfin, disons que notre expérience... il faut travailler plus, voilà. Contrairement à ce que disait M. Sarkozy, il faut travailler plus pour gagner plus. Nous, c'est travailler plus pour gagner à peine autant. Parce que quand on voit l'augmentation de tout, et l'augmentation... Même si on ne touche pas les prix, même si on fait de la vente directe, on ne peut pas ne pas prendre en compte les coûts des produits agricoles sur les marchés. Or, il faut savoir que les prix des produits agricoles sur les marchés sont faussés, puisque le consommateur paye un produit agricole, mais c'est aussi de l'argent public qui est versé en subvention. Donc, en fait, ce n'est pas le vrai coût. Et nous, donc, on ne peut pas...
Vous êtes obligé de vous aligner dessus, malgré tout.
De tenir compte. Par exemple, le prix des œufs, on ne peut pas vendre nos œufs plus qu'à un certain prix. Voilà. Alors que, vu le prix du litre de lait, c'est pareil. Alors que le travail que ça demande, il est là, il existe. Et le temps est...
On a vu le prix du litre de lait se faire rattraper par le prix de l'essence. Et puis maintenant, il est loin derrière, voilà.
Alors, les prix, c'est assez spécial à analyser. Quand on regarde le prix du mouton, le mouton n'a pas augmenté depuis des années parce qu'on a été faire des essais nucléaires sur l'atoll de Mururoa dans le Pacifique. Il y a là-bas des populations entières qui sont malades à la suite de nos essais. Et le gouvernement français n'a rien trouvé de mieux pour ne pas assumer ses erreurs que d'importer de l'agneau de Nouvelle-Zélande en masse, qui arrivent sur le marché français à des prix très bas, alors qu'on avait largement de quoi fournir les besoins de la France, avec nos éleveurs.
Et qu'aujourd'hui, effectivement, les éleveurs sont un peu en déshérence.
Voilà, complètement, complètement. Et on rajoute la traçabilité, tous ces machins qui ne servent à rien. Donc ça augmente encore les coûts liés à l'élevage.
Comment est-ce que vous imaginez l'avenir? Est-ce que ça serait bien que de plus en plus d'agriculteurs sortent de ce système? Et est-ce que c'est possible? Parce que tout de même, ce qu'on entend assez fréquemment quand on évoque ces questions de primes et de systèmes qui, en effet, étranglent, mais en même temps permettent de survivre, c'est que c'est impossible. C'est impossible de s'en sortir.
D'une part, je trouve qu'un syndicat comme la Confédération paysanne, qui est vraiment le syndicat le plus proche de nos idées, je le dis depuis des années, devrait absolument réfléchir à un protocole de sortie du système. Je ne vois pas qui peut réfléchir à un système. Et chaque fois que j'en ai parlé à des responsables de la Confédération paysanne, on m'a ri au nez. Et je trouve ça dommage, c'est pour ça que je n'ai pas ma carte aujourd'hui, alors que c'est le syndicat qui m'est vraiment le plus proche du cœur. Par contre, ce que je peux dire aussi, c'est que les changements importants dans l'histoire, ce sont toujours partis des minorités. Donc c'est notre part d'espoir. Nous, on se dit... On est peut-être minoritaire aujourd'hui, mais peut-être que ça évoluera de cette façon. Et puis, on utilise l'homéopathie pour nos animaux. Les dilutions homéopathiques, c'est vraiment pas grand-chose. Et pourtant, régulièrement, on constate qu'on renverse des situations jugées définitivement impossibles avec quelques granules. Donc, on se dit que peut-être que dans l'avenir...
Les vaches, elles sont pas là?
Mais non. Là, on les lâche tous les... On va regarder dans les prunes. On les lâche tous en ce moment que ça fait beau. On les lâche le matin, on les rentre le soir. Les veaux, ils sont dans les petites cases là-bas. Voilà. Hein, les pépettes, là? On fait des veaux sous la mer, donc ils têtent deux fois par jour, matin et soir, à volonté. Et puis, en fait, nous, on prend le lait qui reste pour faire les fromages.
Il reste du lait?
Disons qu'ils têtent leur mère. Et puis, quand ils ont pas assez de leur mère, ils têtent leur tante. Donc, sur le lot, il reste toujours du lait, quoi.
Un petit chevreau.
Alors là, il y a les petites chevrettes de l'an dernier qu'on a mis à part. Il y a 5 chevrettes de l'an dernier qu'on a mis à part pour pas qu'elles soient couvertes par le bouc, leur père. Et donc d'ici quelques temps, on va enfermer le bouc et lâcher les chevrettes. On va prendre le rythme de l'été.
Et comment vous faites justement pour les mâles? Parce qu'il faut changer de mâle régulièrement pour qu'il n'y ait pas de consanguinité.
Voilà, mais on achète un chevreau à un collègue tous les 2-3 ans.
Donc ça implique qu'il y ait d'autres personnes qui travaillent un peu de la même manière que vous?
De la même manière ou un petit peu différemment, qu'il y ait surtout d'autres personnes, qu'il y ait des chefs, quoi. Voilà. Si, on arrive à trouver, hein, en général. On achète souvent les chevreaux tout petits. Voilà, on les fait à notre main.
Delphine Perrault?
Et puis la clientèle, enfin les gens de plus plus souhaitent acheter des choses qui aient un sens et puis avec un lien avec les personnes qui les ont produits. Donc c'est aussi ça que Pascal, dont tu parlais tout à l'heure, qui t'attire vraisemblablement dans le fait de ne pas toucher les primes.
Oui.
Mais vous, qui nous avez dit depuis le début que vous souhaitiez, mais que ça vous paraissait difficile, quels sont les freins qui, aujourd'hui, vous semblent les plus difficiles à faire sauter?
Moi, je pense que les jeunes qui s'installent, plutôt que de les endetter dès le départ, on devrait leur dire, on vous donne ça, vous faites vos preuves. Voilà, on devrait leur donner de la terre, et puis qu'ils la travaillent, et après, ils décident de faire ce qu'ils veulent dessus. Mais qu'ils aient rien à rembourser pendant un bon moment pour arriver à faire leurs preuves et puis après pouvoir vivre de ce qu'ils produisent, quoi.
Mais moi, je vous parlais de vous, là.
À moi. Moi, je vais arriver à en sortir parce que bon, j'ai quand même 52 ans. Là, ça fait un moment que je me trimballe des emprunts et tout. Là, je vais bientôt finir dans 2 ans de rembourser tout. Donc là, j'ai dit j'arrête. Bon, après, je suis rattrapé par les impôts et la MSA qui me plombent parce que j'investis plus. Ça, c'est un peu aussi une aberration aussi. Voilà, hein. Dans 2 ans, je pense que j'arriverai à en sortir. Mais de toute manière, je pense que... Vu le chemin que ça prend, de toute manière, les aides, elles vont diminuer de plus en plus. Alors, ou parce qu'on aura un contrôle, qu'on n'aura pas une étiquette, on va nous en supprimer 10% ou je ne sais pas quoi. Et tous les ans, ils en sucrent un bout, ou alors ils mettent une espèce de taxe pour remplir une caisse qui, soi-disant, doit aider quand il y a des problèmes. Mais bon, cette caisse, elle part je ne sais pas où. Donc, petit à petit, je pense qu'elles vont s'épuiser d'elles-mêmes.
Philippe Perrault ?
Oui, c'est ça qui est complètement dingue, c'est qu'aujourd'hui, celui qui paye des impôts, il est considéré comme le dernier des imbéciles. C'est-à-dire que dès qu'on fait on a un petit peu de gain, tout le monde vous pousse à investir, à acheter du matériel, à s'endetter, à faire... voilà. Et puis aussi à déclarer à la mutualité sociale agricole un chiffre d'affaires extrêmement bas pour payer moins de charges. Et il se trouve que justement, quand on n'a pas d'emprunt, quand on est limite pour payer des impôts, même si on a une toute petite exploitation, on paye quand même très très cher de mutualité sociale agricole, beaucoup plus cher que des sociétés agricoles qui, justement, payent en fonction de leur chiffre d'affaires, qui est nul parce qu'ils empruntent, ils investissent.
Et vous qui êtes en dehors de ça ?
Ben nous, on n'est pas imposable parce que notre exploitation est trop petite, mais on paye très cher de mutualité sociale agricole pour toucher, à la fin, au bout du compte, une retraite assez dérisoire.
Vous connaissez la somme ?
Oui, je touche 720 euros de retraite par mois. Et j'ai cotisé tous les jours de ma vie, j'ai mis un point d'honneur à ne jamais être au chômage, même avant d'être paysan. J'ai toujours payé mes cotisations en temps en heure, j'ai jamais payé de majoration. Je touche 720 euros de retraite par mois, et on m'a sucré un mois parce que j'ai été trop long à faire remplir mes papiers. Certainement le manque d'habitude, j'aime pas remplir des papiers administratifs, donc j'ai traîné un petit peu, donc on m'a sucré un mois.
N'empêche, ça va.
Ça va, oui. On a beaucoup de chance, on fait un métier qui nous plaît, dans un environnement qui nous plaît. J'ai réalisé mon rêve, je peux pas me plaindre.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la réécouter et la télécharger sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation Laurence Chenepin, Anne Gouzon, mixage Olivier Dupré, réalisation Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous!